Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Plaisir de vous voir si nombreux ce matin. Est-ce qu'on vous a déjà fait une échographie?
Oui.
Est-ce que vous avez compris ce que vous avez vu? Moi, j'en ai eu. Mais alors, franchement, j'ai rien vu du tout. Parce que du noir, du blanc. Puis après, le radiologue, il dit, ah, mais ça, c'était l'organe, ça, c'est ça. Puis là, il y a ça, il y a ça. Ah bon, ben d'accord. Et je me suis souvent demandé, mais comment il fait pour savoir, pour voir quelque chose là, pour distinguer tel organe de tel autre organe. Et puis après, je me dis, ben oui, ben il a étudié. Hein, c'est sûr que voilà, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça tout seul. Il a dû faire des études pour arriver à voir et à pouvoir voir s'il y a une anomalie, s'il y a un problème. Et le titre du message de ce matin, c'est « As-tu du discernement ?» Alors, on va parler du discernement. Tout d'abord, ben, qu'est-ce que le discernement? Alors, il y a les définitions du dictionnaire français et puis aussi la définition des deux termes grecs principaux qui sont utilisés. Alors, discerner, donc voilà, pour le dictionnaire français, discerner, ça veut dire distinguer par le regard, percevoir quelque chose par rapport à ce qui l'entoure. Faire la distinction entre deux choses mêlées, confondues, différencier, identifier, reconnaître. Et puis dans un sens figuré, comprendre par l'esprit, par le jugement, saisir, se rendre compte de la nature, de la valeur de quelque chose. Voilà, donc on voit que ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, mais il faut bien observer. Et le mot discernement, capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses, jugement, bon sens. Et puis il y a deux termes grecs principaux qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Le terme diakrino, qui veut dire séparer, faire une distinction, distinguer, apprendre par discernement, distinguer par la vue, déterminer, donner un jugement ou ne pas douter. Et puis le terme dokimazo, mettre à l'épreuve, examiner, éprouver, reconnaître comme véritable après examen. Donc on peut dire que résumer, discerner, c'est voir au-delà de ce qu'on voit au premier regard. Hein. C'est vraiment voir dans le détail, en profondeur. Et puis c'est voir aussi quelque chose dans un environnement qui n'est pas net, pas évident. Donc ça demande de l'attention. On va commencer par un premier verset qui est bien connu parce qu'il est souvent cité pour lorsqu'on prend la Sainte Cène, dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors là, on trouve les deux mots grecs. Il y a s'examiner, que chacun s'examine lui-même, le mot dokimazo. Et puis, donc, se mettre à l'épreuve soi-même, en fait, voir si vraiment dans nos vies, on est en ordre avec le Seigneur avant de prendre le repas du Seigneur. Et puis, discerner le corps du Seigneur, le mot diakrino en grec. Donc, faire une distinction déterminée. Et c'est ça, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, en fait, on discerne au-delà des éléments qu'on prend, le morceau de pain, le jus de la vigne. On discerne que la réalité de ce que ça représente. On discerne que ça représente, en fait, le corps et le sang du Seigneur qui est mort pour nous. On voit cette réalité au-delà de ce qui est visible. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, ben, il ne va rien comprendre. Hein. Il va dire, bon, c'est un rituel, mais voilà, il dit c'est du pain, c'est du vin, et ça s'arrête là. Mais lorsqu'on discerne le corps du Seigneur, on voit vraiment qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est important. Alors, il y a trois domaines, il y en a peut-être plus, mais trois domaines principaux dans lesquels on a besoin d'avoir du discernement. Tout d'abord, le discernement en général, discerner ce qui est bien, discerner le bien du mal. Discerner les esprits et discerner les temps. Alors, on va commencer par discerner ce qui est bien. Alors ça, c'est quelque chose qui ne nous est pas donné naturellement. C'est quelque chose qu'on est appelé à développer, à acquérir. Alors comment acquérir ce discernement-là? Il y a plusieurs manières. D'abord, il y a par l'instruction de la parole de Dieu. On peut lire de Romains 2, versets 17 à 18. « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important. Pourquoi ? Car tu es instruit par la loi. » Donc on voit que la parole de Dieu nous instruit et qu'avec cette instruction, on va discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Donc Proverbe 1, les versets 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc on sait que Salomon, il avait reçu cette sagesse vraiment de la part de Dieu. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc on voit que Salomon, il a écrit les proverbes justement pour qu'on puisse apprendre à discerner ce que Dieu veut, ce qui est juste à ses yeux et ce qui ne l'est pas. Et ça, ça veut dire qu'il faut s'instruire dans la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Et désirer s'instruire, ben, ça demande aussi de l'humilité. Hein. Ça veut dire, ben, je ne sais pas tout et j'ai besoin d'apprendre. Deuxième chose, par la consécration à Dieu. La consécration à Dieu, c'est-à-dire on va se donner à lui. On va faire de lui le maître et le seigneur de notre vie et pas seulement notre sauveur. Romains 12, les versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et si on ne discerne pas ça, ben on va peut-être se conformer au monde. Et le monde, il mélange le bien et le mal. Hein, je crois que la société actuelle, de plus en plus, on appelle le bien mal et le mal bien, on ne sait plus où est le bien et le mal. Et ça, c'est de plus en plus. Donc, c'est important aussi de choisir de se consacrer au Seigneur. Il ne s'agit pas d'offrir nos corps en sacrifice vivant, il ne s'agit pas de s'immoler, évidemment, hein, mais il s'agit de s'offrir à Dieu, hein. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est le premier commandement. C'est ça, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Se mettre au service de Dieu. Se mettre à part pour Dieu. Se sanctifier. Choisir de le servir. Et je crois qu'on a besoin de discerner la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos finances ou nos biens, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre sexualité, que ce soit encore dans tous les domaines finalement. Parce que justement, le monde mélange tout ça. Troisième chose, par l'amour pour Dieu, un amour toujours plus grand, qui va nous inciter à le connaître toujours mieux. Quand on aime quelqu'un, ben on désire le connaître, et puis mieux on connaît la personne, plus on va l'aimer. Et c'est la même chose avec Dieu. Et dans Philippiens 1, les versets 9 à 10, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. que notre amour augmente en connaissance pour pouvoir discerner ce qui est essentiel. L'amour pour Dieu. Je crois que plus on va aimer Dieu, plus on va discerner ce qui lui fait plaisir. Comme quand on aime quelqu'un, ben plus on le connaît, plus on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. On connaît ses goûts. C'est la même chose avec notre Seigneur. Et puis, enfin, par la maturité spirituelle, donc avec le temps. Hein, comme j'ai dit, discerner, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme le radiologue, il doit faire des études pour arriver à discerner les organes en regardant une échographie ou un IRM ou une chose comme ça. Eh bien, ça vient aussi avec la maturité spirituelle. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, je crois que ben c'est comme dans la vie, hein, quand on prend de l'âge, on a une certaine maturité, voilà, qu'un enfant n'a pas. Hein, ben c'est la même chose au niveau spirituel. Je crois que si on est adulte spirituellement, c'est-à-dire que si on a des années de marche avec le Seigneur, eh bien, on va discerner des choses, on va beaucoup plus facilement discerner ce qui plaît au Seigneur que si on est tout jeune dans notre foi. Donc la maturité, elle vient de l'expérience, et puis l'expérience, ça vient avec le temps, avec la pratique. C'est quelque chose qui s'acquiert peu à peu. Et ce qu'on voit dans tous ces textes, voilà, discerner ce qui est bien, par l'instruction de la parole de Dieu, par la consécration à Dieu, l'amour pour Dieu, la maturité spirituelle, ben, c'est quelque chose où on a notre part à faire. C'est pas quelque chose ben, que c'est Dieu qui fait tout. Hein. On a notre part à faire. C'est quelque chose qui résulte premièrement de nous, en fait. Et si on ne fait pas notre part, ben, faut pas s'attendre à ce que ça nous tombe dessus comme ça. Le deuxième point, c'est discerner les esprits. Alors, le discernement des esprits, c'est un don spirituel, c'est donné par le Saint-Esprit à certains, dont 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, c'est un don de révélation. Le Saint-Esprit va révéler quel esprit anime telle ou telle personne. Et on a un exemple concret dans les Actes. Actes 16, versets 16 à 18. Donc, c'est l'apôtre Paul avec ses compagnons qui allaient de lieu en lieu pour apporter l'Évangile. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Alors, c'est assez étonnant ce texte, parce qu'en fait, cette jeune esclave qui était habitée donc par un esprit mauvais, un esprit de divination, ce qu'elle disait, c'était vrai. C'était vrai, hein, que Paul et ses compagnons sont des serviteurs de Dieu qui amenaient qui montraient la voie du salut. Elle disait quelque chose de juste, et puis elle a fait ça pendant plusieurs jours. Donc, ce qui veut dire que Paul et ses compagnons, ils n'ont pas tout de suite discerné que c'était un esprit mauvais qui l'habitait. Hein. Et bon, peut-être au début, ils se disaient « Ah ben chouette, elle nous ouvre le chemin, quoi hein. !» Puis en fait, au bout de quelques jours, ben, Paul, ça l'a agacé. Et parce que ça l'a agacé, il s'est dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ça ne vient pas de Dieu. » Parce que ça m'agace, ça m'énerve. Et si on est agacé, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas bien, hein, ben, on est moins apte à être, comment dire, inspiré par le Seigneur, à être guidé par lui, à entendre sa voix, parce qu'on est préoccupé par ce qui nous agace. Donc là, il s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Et puis, il a discerné qu'il y avait, Dieu lui a donné vraiment ce don de discernement et il a chassé l'esprit. Et ensuite, ils étaient tranquilles, quoique bon, ils ont eu d'autres problèmes après qui ont suivi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, ben, c'est vrai que c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit à certains, comme on l'a lu dans les Corinthiens. Ce n'est pas donné à tous. Mais je crois qu'on a quand même besoin, à certains moments, dans certaines situations, on peut demander à Dieu de nous révéler aussi qu'est-ce qui se passe. Hein? Parce que peut-être, vous avez peut-être une personne qui vous agresse régulièrement, verbalement, hein? Voilà, avec qui ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas d'atome crochu. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être un voisin, ça peut être dans le cadre de la famille, peu importe. Hein? Et puis, bon, voilà, ça ne veut pas dire que la personne elle est possédée hein, non plus, mais voilà, comment réagir face à ça? Parce qu'il y a plusieurs façons de réagir quand ça nous arrive. Ça nous arrive à tous, je crois, à un moment donné, hein, ce genre de situation. Et puis, parfois, la meilleure réaction, c'est de ne pas répondre. Moi, ça m'est arrivé des fois que quelqu'un me disait des choses pas agréables du tout, et vraiment, le Seigneur m'a dit, tu te la coinces, quoi. Bon, c'était pas facile, mais voilà, je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, peut-être aussi, à d'autres moments, c'est une parole douce, comme disent les proverbes, une parole douce calme la fureur. Peut-être répondre, parce que peut-être la personne, elle est agressive, parce que peut-être elle a peur de quelque chose, elle n'est pas bien dans sa peau. Alors peut-être de la rassurer, de lui dire quelque chose d'agréable, calmement, ça peut faire redescendre toute la tension. Ou parfois, eh bien, ça peut être ferme, avec autorité, comme l'apôtre Paul l'a fait, parce qu'il y a peut-être vraiment quelque chose de spirituel. Mais comment discerner ce qui est de l'humain, ce qui est du psychisme, ce qui est peut-être juste du caractère de la personne, ou ce qui vient vraiment de l'ennemi, qui essaye au travers de ça de nous déstabiliser, de nous agacer, pour qu'on ne soit plus vraiment en paix, non plus avec le Seigneur? Eh bien, je crois qu'on a besoin de ce discernement-là. Et si Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, je pense que c'est aussi pour ça, en fait. Parce qu'en priant pour ceux avec qui on a plus de peine, ben, le Seigneur peut nous montrer aussi qu'est-ce qui anime la personne. Cette personne, elle a tel problème, elle a telle chose. Et puis, ben, voilà comment on est appelé à réagir. Et je crois que c'est important, c'est tout concret. Hein. Mais souvent, on oublie ce genre de choses. Puis le problème, c'est qu'on risque de réagir de la même manière. Une personne nous agresse, on va réagir agressivement. Puis après, on se dit, ben non, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut, hein, idéalement. Donc voilà, je pense que c'est important. Donc là, il s'agit vraiment de la part du Saint-Esprit qui peut nous révéler les choses, mais on peut être à l'écoute. Et je crois que plus on sera en relation avec Dieu, plus on aura communion avec lui, plus le Saint-Esprit va nous parler, nous montrer les choses et comment réagir dans telle et telle situation qu'on peut rencontrer. Ça peut être des fois des petites choses toutes bêtes qui nous agacent. Hein. Dire, ben, attention, là, je suis en train de me faire avoir, donc Seigneur, je te remets ça et puis je ne veux pas m'énerver. Voilà. Ça m'arrive souvent de dire, ben, calme-toi, énerve-toi pas, remets au Seigneur et puis voilà, puis ça va beaucoup mieux après. Et puis mon troisième point, c'est discerner les temps. Matthieu 16, versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Les pharisiens et les sadducéens, c'étaient les religieux du temps de Jésus. Et en fait, c'était eux qui auraient dû en premier reconnaître en Jésus le Messie. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient les prophéties. Puis ils voyaient ces prophéties qui s'accomplissaient sous leurs yeux. Et ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient dans le temps du Messie. Et puis, ils demandent à Jésus de faire encore un signe. Et Jésus, il va prendre l'exemple de la météo. C'est intéressant. intéressant, parce que oui, bon, on a tous un peu des notions météorologiques, hein, donc c'est vrai que nous aussi, on sait que si le soir, il y a des beaux nuages roses, on se dit, ben, chouette, il va faire beau demain. Puis si le matin, c'est vraiment rouge foncé, là, on se dit, ouh, là, ça vient, le mauvais temps qui arrive, quoi. Mais voilà, mais pour savoir plus quel temps il va faire, ben là encore, il faut étudier, hein. Les météorologues, ils étudient la météo. Et puis, ils ont toutes sortes d'instruments pour ça. Ils ont les satellites, ils ont des instruments pour mesurer l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les vents, etc., quoi. Et puis, ils étudient, et puis, ils essayent de prédire, avec plus ou moins d'exactitude, le temps qu'il va faire. Mais, ils prédisent avec plus ou moins de succès, pas tout à fait 100% quand même, le temps qu'il va faire le jour même, dans les heures qui viennent. Hein? Le temps qu'il va faire le lendemain, on tombe déjà à 80%. Le temps qu'il va faire après-demain, on arrive à 60% de probabilité. Hein? Puis après, ça part 40, 20, puis le temps qu'il va faire dans un mois, ben, ils ne peuvent pas dire. Et c'est intéressant que Jésus ait pris cet exemple-là. Parce qu'effectivement, on peut savoir le temps qu'il va faire dans les heures qui viennent en regardant le ciel, comme les météorologues, ils peuvent annoncer le temps qu'il va faire dans les prochaines heures, peut-être une tendance pour les jours suivants, et puis c'est tout. Ben, c'est la même chose, en fait, dans les temps qu'on vit, pas le temps qu'il fait, hein, mais je veux dire le temps qui passe, hein, l'époque dans laquelle on vit, c'est pareil. On peut peut-être discerner dans quel temps nous sommes maintenant, mais savoir ce qui va se passer dans X temps, X temps, X temps, il y a des tendances, mais voilà. Hein. On ne sait pas exactement quand ça va arriver. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir la météo qui va faire? Pourquoi c'est important qu'il y ait des météorologues, finalement? Ben, parce que s'ils annoncent une grosse tempête, hein, des orages violents et tout, ben, on ne va peut-être pas aller faire des activités en montagne ou sur le lac, sur la mer, que sais-je. On ne va peut-être pas prendre des risques. Hein. S'ils annoncent de la grêle, on va se dire, ben, attends, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce que je peux mettre à l'abri? S'ils annoncent des vents violents, ben, on va attacher ce qu'on ne peut pas ranger. Hein. Donc, on va prendre les dispositions pour se protéger. S'ils annoncent très chaud, on va se dire, ben, ouais, si je vais marcher, il faut que je prenne assez à boire. Et puis, il faut que je mette la crème solaire, que je mette un chapeau, enfin voilà, etc. quoi. Donc, la météo est utile pour savoir comment se comporter. Et les signes des temps sont là aussi, les temps qu'on vit, pour savoir comment nous devons nous comporter. Qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Et il y a un texte qui est très intéressant dans 1 Chronique 12. On va prendre le verset 24 et le verset 33. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül conformément à l'ordre de l'Éternel. Puis ensuite, il y a pour chaque tribu, hein, combien d'hommes, etc. Et on arrive à la tribu d'Issacar. Des Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Intéressant ce verset-là au milieu. Hein? Voilà, quand on lit des listes comme ça, on a tendance à passer dessus. Et puis la tribu d'Issacar, ben, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Ce n'est pas la tribu de Juda ou la tribu de Lévi qui était au service du temple, ou enfin, Juda à la royauté, Lévi au service du temple, ou la tribu de Benjamin, ou... Voilà, je ne serais pas capable de vous dire est-ce qu'il y a un grand chef qui est venu de cette tribu-là, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment dont on parle beaucoup dans la Bible qui était de cette tribu. Peut-être, hein, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Mais toujours, c'est intéressant et c'était hyper précieux pour Israël de savoir comment, ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce que Dieu leur demandait. Parce qu'ils n'étaient pas toujours dans des situations faciles. Hein. Il y avait des ennemis qui les attaquaient, etc. Et là, dans cette tribu-là, il y avait des gens qui étaient capables de discerner les temps puis de savoir ce que Dieu voulait qu'ils fassent, voulait qu'Israël fasse. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Hein. On peut penser à Mardochée dans l'histoire d'Esther, qui a discerné aussi qu'Esther était parvenue à la royauté parce qu'il y avait le plan de Dieu de délivrer les Juifs hein, de l'extermination, et Esther pouvait intervenir auprès du roi. Hein, il a dit à Esther, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenue à la royauté. Lui, il a discerné. Il a discerné ça. On peut penser à Joseph aussi, quand Pharaon a eu ses songes avec les vaches maigres, les vaches grasses. Bon, il a interprété les songes, voilà, il y aura des années d'abondance, puis il y aura encore sept années de famine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des réserves, il faut se préparer. Hein. C'est une météo orageuse qui arrive, là, avec la famine. Ben, il faut se préparer, il faut faire des réserves, il faut engranger. Et puis encore, dans Acte 15, pour lire à la maison, donc c'est quand les apôtres ont discuté pour savoir, ben voilà, il y avait des non-juifs qui venaient à la foi, qui se convertissaient, qui recevaient le Saint-Esprit. Et puis, ben, il y en a qui disaient, ben alors ils doivent se faire circoncire, ils doivent devenir juifs, en fait, pour être sauvés. Et puis, Paul et ses compagnons, ben non, il n'y a pas besoin, etc. Enfin, il y a eu une vive discussion, hein, il y a eu un débat qui était assez fourni, assez houleux. Hein. Et c'est Jacques, finalement, Jacques, le frère du Seigneur, certainement, qui a eu cette sagesse, qui a dit, ben voilà, je propose qu'on ne leur impose pas autre chose que de s'abstenir de l'impudicité, des viandes sacrifiées aux idoles, je ne sais plus, enfin, il y avait 3-4 choses, voilà. Et c'est lui qui a reçu ça. C'est ni Paul, ni Pierre, ni Jean, c'est lui qui a reçu. Et voilà, dans ces textes, donc on voit qu'il y a aussi notre part. Hein. Notre part, c'est d'observer, c'est d'écouter. Comme pour la météo, on écoute, on observe, on apprend. Et le Saint-Esprit aussi est là pour nous donner ce discernement. Donc, quel temps nous sommes et ce qu'on doit faire. Donc, il y a notre part et la part du Saint-Esprit. Est-ce que nous savons dans quel temps nous sommes? Dans Ecclésiaste 3, il est dit qu'il y a un temps pour toute chose. Alors, dans quel temps est-ce qu'on est? Alors, ça, c'est au niveau déjà personnel, parce que nous vivons aussi des temps différents dans nos vies. Nous vivons des saisons différentes. Nous vivons des temps peut-être où tout va bien, gloire à Dieu. D'autres temps qui sont des temps d'épreuve, peut-être de maladie, peut-être de chômage, de que sais-je, hein, de conflit, de voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur aimerait qu'on réagisse? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au travers des temps qu'on vit? C'est important de le savoir. Donc, on a besoin vraiment de ce discernement-là. Et puis, au niveau aussi de notre communauté, voilà, nous, Église de Martigny, quels sont les temps dans lesquels nous vivons? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant? Quelles sont les priorités? Et puis ensuite, il y a l'Église corps de Christ, l'Église avec un E majuscule, voilà, par rapport à la société, comment la société évolue, qu'est-ce qui se passe, et comment l'Église corps de Christ, qu'est-ce qu'elle est appelée à vivre? Alors, on sait, ben, dans les grandes lignes, hein, c'est sûr que l'Église, elle est là pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour prêcher l'Évangile, voilà. Mais voilà, plus précisément, quel est le temps que Dieu, comment est-ce que Dieu agit maintenant? Alors ça, c'est peut-être plus les prophètes, ceux qui ont un ministère de prophètes, qui vont recevoir aussi ces choses-là. Hein. Mais je crois que c'est important qu'on soit, chacun de nous, à l'écoute, déjà à notre niveau personnel. C'est important pour nos vies, finalement, hein, parce que ce n'est pas par hasard que les choses arrivent. Mais voilà, quand on vit telle et telle situation, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça? Comment tu veux que j'agisse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu me demandes? Donc, voilà, pour conclure, donc on voit que le discernement, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose qu'on a quand on vient au monde. Hein. On doit apprendre. En fait, comme un petit enfant, ben, on va lui apprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Hein. On va lui dire, c'est bien de dire bonjour monsieur, bonjour madame, merci, au revoir. Et puis, ce n'est pas bien de casser les jouets de ta petite sœur ou de donner des coups de pied. Enfin, voilà. Enfin, bref, on va lui apprendre les choses et il va apprendre. En grandissant avec la maturité, il va apprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Mais nous, au niveau spirituel, on a aussi besoin de l'apprendre. Et ça s'acquiert donc, comme je l'ai dit, par la connaissance de la parole de Dieu, par la consécration à Dieu, par l'amour pour Dieu, par la maturité. Et ça prend du temps, et ça demande un engagement de notre part. Ça demande de l'humilité, ça demande de la persévérance, parce que justement, c'est dans le temps que ça se passe. Et pour ça, on a vraiment notre part à faire. Et puis, le Seigneur peut nous donner à certaines occasions du discernement pour voir quel esprit anime telle ou telle personne et comment nous devons réagir par rapport à ça. Qu'on ait vraiment la réaction qui est adaptée. Parce que sinon, si on répond avec agressivité, ben, ça monte. Hein. C'est comme la guerre. Hein. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Et puis on se renvoie tout le temps les choses. Puis ça monte et ça n'en finit pas. Quoi. Et c'est aussi important de savoir en quel temps nous vivons en tant qu'individu, en tant qu'Église. Et ça demande aussi de l'observation, des connaissances, hein, pensons aux météorologues qui étudient le ciel et les courants, etc. Et soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment agir, qu'est-ce que Dieu nous demande dans telle et telle situation, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Alors, est-ce que tu désires grandir dans ce domaine? Je crois que c'est important hein, qu'on puisse grandir ça. Alors, tu as ta part à faire, comme j'ai la mienne, et puis le Saint-Esprit fera le reste. Et je vous propose qu'on termine par la prière. Ben, Seigneur, merci parce que, oui, tu es notre Dieu. Et nous désirons grandir avec toi. Nous désirons avoir toujours plus ces oreilles pour t'écouter, ce cœur pour comprendre. On ne veut pas être comme les religieux de l'époque de Jésus, à qui Jésus a dit, vous avez des oreilles, vous entendez pas, vous avez un cœur qui est fermé, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Mais Seigneur, on veut des yeux spirituels pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir et un esprit pour comprendre ce que toi tu veux nous dire, déjà personnellement, mais aussi en tant que communauté. Qu'on puisse vraiment grandir dans ce domaine pour toujours mieux comprendre ta volonté et pour toujours mieux faire ce que tu nous demandes, Seigneur, pour être vraiment tes serviteurs et tes servantes en qui tu prends plaisir et qui font ton œuvre, Seigneur, qui font avancer ton œuvre. Merci, Seigneur, de nous l'accorder, de nous donner la patience et la persévérance, la volonté pour, être en relation avec toi, pour lire ta parole, pour passer du temps dans ta présence et pour être vraiment toujours attentif. Merci, Seigneur. Amen.